Bonjour à chacune et chacun. J'ai l'impression que vous étiez déjà tous là la semaine passée, le mois passé ou pas? Ou je rêve? Non, il y a un visage nouveau, oui, ça de toute façon, mais n'était pas là non plus.
Non,
oui, qu'est-ce qui n'était pas là la fois passée?
Hein? La fois passée, il n'était pas là.
Ok, c'est très bien. Ok, mais ça tombe bien parce que, en fait, ce chapitre 7 de Fratelli Tutti est un chapitre, me semble-t-il, assez majeur, puisqu'il est question du pardon au terme de tout un cheminement. Et comme il n'était pas terminé, je vais le poursuivre et en reprenant certains éléments déjà présents le mois passé, mais avec je vais souligner certains aspects. Et je vous propose de commencer par cette démarche d'une prière. Vous avez reçu une grande feuille de Pape François en finale de Fratelli Tutti. Il propose deux prières. Une qu'il appelle prière au Créateur. Dans son cœur, c'est une prière que tout humain devrait pouvoir oser dire. Voilà. Et puis après, il proposera une prière chrétienne et même œcuménique, sous-entendu. Œcuménique, au sens strict, ça veut dire les chrétiens, qu'ils soient orthodoxes, anglicans, protestants, catholiques. Et je propose maintenant de prendre la première, tantôt on prendra l'autre, que ce soit avec ce désir que nos cœurs puissent s'ouvrir vraiment à cette réalité de Fratelli Tutti. Quel monde voulons-nous? Ce monde est-il possible? Oui, je le dis clairement d'emblée, la joie est là. On a la certitude que ce monde nouveau que Dieu a inauguré en Jésus s'accomplira. Quand, comment, ça va dépendre de l'implication des hommes. Le Seigneur, lui, il n'attend qu'à agir encore plus à nous, en nous et par nous. Mais donc, osons voir combien, à travers cette encyclique, c'est possible, à travers un chemin, certes, quand même, qui demande le courage de la vérité, comme il dira, le courage d'avancer. Je vous propose de dire ensemble cette prière sans courir. Pour celle qui vient d'entrer, il y a deux feuilles sur la table à l'arrière à prendre. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semé en chacun, pour former des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Je ne voudrais évidemment pas vous empêcher de lire l'entièreté de l'encyclique. On la trouve, vous le savez, au magasin religieux, mais on peut la trouver à l'accueil, à la carterie, si on souhaite. Mais je vous ai donné un petit feuillet qui reprend des extraits de ce chapitre 7. Je vais, en gros, m'arrêter à cela. C'est une sélection que j'ai faite qui me semble bien pour souligner ou ressouligner certains aspects et prolonger. Le pape François, je vous le rappelle, c'est tout un cheminement. Et donc ce chapitre 7 qui parle des parcours pour se retrouver a supposé d'abord c'est ce qu'il a fait, de montrer combien il y a une diversité, il y a éclatement, il y a des chemins à vivre. Il leur a montré aussi combien dialoguer, ça va impliquer de s'écouter et donc d'oser parler. Parce que si on ne dit rien, on n'avance pas. Et puis, bien sûr, comprendre ce que ça veut dire, chercher un consensus entre les humains, que ce soit dans une famille, dans une communauté, entre nations. Je repointe avec vous donc au numéro 227. La vérité, dit-il, donc ce qui est en gras ou souligné, c'est simplement de moi, hein, ce n'est donc pas dans l'encyclique, vous en doutez. La vérité est une compagne indissociable de la justice et de la miséricorde. Pour nous chrétiens, la vérité, c'est même encore plus que ça, c'est quelqu'un. C'est Jésus-Christ, c'est Dieu. La vérité, c'est un être, c'est une dynamique vivante. Mais en termes, dans le monde, la vérité, il le souligne avant dans son texte, combien la vérité, eh bien, c'est quelque chose qui dépasse l'instant présent, qui dépasse les contingences. Il y a au plus profond du cœur humain des points communs que l'homme peut reconnaître, quelles que soient ses tendances, ses options. Mais il insiste, la vérité est indissociable de la justice et de la miséricorde. Les deux mots sont importants, justice et miséricorde. Combien de fois le pape va le souligner et il va encore le remontrer clairement ici. Tous les trois sont essentiels pour construire la paix. Et d'autre part, chacune d'elles empêche que les autres soient altérées. Il ne s'agit pas de dire la justice, et du coup on devient intolérant, sans miséricorde. Non, il ne s'agit pas non plus de dire soyons miséricordieux parce que oh, c'est quand même plus facile. Ah non, si c'est pour gommer la justice ou nier la vérité. Et je crois qu'on doit oser entendre ça. Quand on est blessé, que ce soit à titre personnel, ou au niveau d'une famille ou d'un pays, il ne s'agit pas de dire ouais, tu vas oublier, allez, arrête-toi. Non, non, non. La réalité est là. Vérité, justice et miséricorde. Trois mots à conjuguer. Et c'est toujours intéressant, dans une situation de conflit, de se demander est-ce que les trois sont présents ou est-ce qu'on en a un qu'on a mis entre parenthèses là. Et il a de ces phrases, mais une force. Et je crois que nous chrétiens, a fortiori comme chrétiens, on a le devoir d'oser mesurer l'intensité de l'événement. Parce qu'on sait que Dieu est amour. Écoutez ce qu'il dit. Chaque violence commise contre un être humain est une blessure dans la chair de l'humanité. C'est fou. Chaque violence est comme une blessure dans la chair de l'humanité. Chaque mort violente nous diminue en tant que personne. C'est génial comme expression. C'est fort, nous diminuer en tant que personne. La violence engendre la violence, la haine engendre plus de haine, et la mort plus de mort. Nous devons briser cette chaîne qui paraît inéluctable. Et je crois, j'aime bien dire qui paraît inéluctable. Le chrétien est fondamentalement un homme d'espérance. Il sait que la mort sera vainqueur. Et ce n'est pas une question d'optimisme, ça n'a rien à voir. L'espérance chrétienne, tout comme la foi, l'espérance et la charité, ces trois vertus théologales, elles sont enracinées en Dieu et pas en l'homme. Par conséquent, c'est du solide. C'est parce que Dieu est amour et qu'il l'a révélé jusque dans le mystère de la croix et de la résurrection, que je sais que cette espérance, elle est tout simplement solide. Le monde tel que Dieu le rêve adviendra. À quel rythme, quand, comment, c'est une autre paire de manches, mais ça dépendra de nous, comme je l'ai déjà dit. Mais donc, même si l'humanité autour de nous semble perdre de l'espérance, se décourage, Quelque part, c'est comme si le Seigneur venait nous dire à chacun, chacune, mais toi, tu sais, hein, grâce à moi, que ce monde adviendra. Est-ce que tu veux collaborer avec moi? Et donc, nous avons le bonheur extraordinaire de collaborer à une œuvre qui nous dépasse de fond en comble, mais qu'on sait vrai en Jésus-Christ. On attrape les cheveux gris peut-être, mais de toute façon, tôt ou tard, on en aura. Donc on anticipe les choses, mais je dis ça avec humour, mais c'est une façon de dire notre mission est toute belle. Et on n'y est pour rien. C'est pas une question de, je reviens, je le redis encore, d'être un optimiste, ça n'a rien à voir. Au 236, certains préfèrent valeur d'essence du pardon. Certains préfèrent ne pas parler de réconciliation. Alors je l'ai souligné parce que dans le jargon chrétien, on entend parler pardon et réconciliation. C'est pas exactement la même chose. Certains préfèrent ne pas parler de réconciliation parce qu'ils pensent que le conflit, la violence et les ruptures font partie du fonctionnement normal d'une société. Sous-entendu, bah oui quoi, hein, ça a toujours été, ça continuera encore à l'être quoi. Ah oui, on se va se buter, bah, n'en fait pas un drame, c'est comme ça. C'est une vision très terre à terre. Bien sûr qu'il y aura toujours des conflits, mais c'est pas parce qu'il y aura toujours des conflits qu'il faut prendre ça à la légère. L'objectif, c'est bien d'essayer d'apprendre que les conflits, il y en ait de moins en moins, qu'ils soient de moins en moins dangereux, mortifères, et voilà. De fait, au sein de tout groupe humain, il y a des luttes de pouvoir, plus ou moins subtiles, entre différents secteurs. C'est vrai aussi au niveau politique, c'est vrai quand on voit des grandes sociétés qui essaient de se manger l'une l'autre, pour étendre leur pouvoir. Donc, mais ce n'est pas parce qu'il y a cette tendance dans le cœur humain qu'il faut minimiser cette vocation au pardon et à la réconciliation. D'autres croient que la réconciliation, écoutez bien ça, est l'affaire des faibles, qui ne sont pas capables d'un dialogue de fond, qui choisissent donc de fuir les difficultés en dissimulant les injustices. Incapables d'affronter les problèmes, ils font l'option d'une paix apparente. Clac, au moins c'est clair. Combien de fois on n'a pas entendu, sûrement vous aussi, matin naïf de croire à la réconciliation. Alors, si la personne est chrétienne, j'ose lui dire, est-ce que Jésus est naïf? Est-ce que Dieu est naïf? Nous sommes créés pour la communion. Et donc, du coup, créer aussi pour un chemin de réconciliation. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est la réconciliation? C'est encore autre chose. Mais en d'autres termes, c'est pas être naïf, c'est tout simplement oser viser haut au nom de notre dignité de créature. 241. Il ne s'agit pas de proposer un pardon en renonçant à ses droits devant un puissant corrompu, devant un criminel ou devant quelqu'un qui dégrade notre dignité. Frères et sœurs, là je me suis permis d'être en gras, mais est-ce qu'on se rend compte de ce qui est dit là? Je n'ai pas peur de dire, l'Église est la première à devoir se rendre compte de ce qui est dit là. Hein. Quand on voit tous les abus qu'il y a eu, qu'il y a peut-être encore, enfin bon, c'est imbuvable, c'est la dignité même qui est atteinte. Et il ne s'agit pas de dire effectivement, tant pis, je renonce à me battre pour exiger de la justice, pour essayer d'arrêter le criminel ou tout ce qu'on veut. Il va assez le montrer, c'est inacceptable. Et il insiste, la suite est claire, nous sommes appelés à aimer tout le monde. Sans exception. Effectivement, ça c'est. Si on veut être disciple de Jésus, on est appelé à aimer tout le monde sans exception. Mais que ça veut dire aimer? Au sens biblique, il y a trois mots pour dire aimer. Le mot chrétien, le mot aimer, en français, c'est pauvre. Un seul mot pour tout dire. Au niveau biblique, il y a le mot eros, finel, et agapé. Quand Jésus dit qu'il faut aimer ses ennemis, il ne dit pas va cours ton ennemi, va l'embrasser, dis-lui que tu es merveilleux, un bisou, bisou, bisou. C'est pas ça. Ça, c'est l'aspect affectif qu'on peut vivre quand on est dans la confiance, et peut-être pas forcément dans le couple ou dans une famille. Mais aimer, c'est avoir ce regard de dignité pour l'autre, de respect de l'autre, théoriquement réciproque. Un amour, ça veut dire le souci gratuit du bien de l'autre. Mais par contre, moi, ça ne peut pas être destructeur de moi. Et donc, je poursuis, aimer un oppresseur, je suis toujours au 241, quatrième ligne, ce n'est pas accepter qu'il continue à servir, ce n'est pas non plus lui faire penser que ce qu'il fait est admissible. Ce serait de la fausse charité, ça. C'est horrible. Au contraire, l'aimer comme il faut, c'est œuvrer de différentes manières pour qu'il cesse d'opprimer. C'est lui retirer ce pouvoir qu'il ne sait pas utiliser et qui le défigure comme être humain. Ouais, le pape compte bien, non seulement il défigure l'autre, mais il se défigure aussi. Dieu ne nous donne pas la vie pour être un criminel, Dieu ne nous donne pas la vie pour faire du tort aux autres. Donc quelque part, celui qui agit mal, il fait du tort le premier, mais il en fait aux autres. Notre vocation, c'est pas de faire du tort aux autres. Et donc, pardonner ne veut pas dire lui permettre de continuer à piétiner sa propre dignité et celle de l'autre. Et on laisse un criminel ou laisser un criminel continuer à faire du mal. On lui rend un très mauvais service en n'empêchant pas, en n'essayant pas d'arrêter ce qu'il fait. On lui rend un très mauvais service. Il est en train de se démolir, en plus il démolit les autres. Et donc vous voyez que c'est toute la notion de justice. Celui qui subit une injustice doit défendre avec force ses droits et ceux de sa famille, précisément parce qu'il doit préserver la dignité qui lui a été donnée, une dignité que Dieu aime. Si un malfaiteur me fait du tort, à moi ou à un être cher, personne ne m'interdit d'exiger une justice et de veiller à ce que cette personne, ou tout autre, ne me nuise de nouveau ou ne fasse le même tort à d'autres. Il faut le faire, et le pardon non seulement n'annule pas cette nécessité, mais l'exige. Enfin, c'est ça. Je crois que dans la mentalité chrétienne occidentale, pour les aînés, c'est très neuf d'entendre ça. On a été déformé très souvent en disant, mais bon, allez, ok, il faut pardonner, laisse courir. C'est horrible. C'est horrible parce que l'autre peut continuer à faire du tort. À lui-même déjà, mais de toute façon, en plus à des victimes. C'est vrai à tout niveau. Dans une famille, on peut avoir parfois certains qui font du tort, pas encore peut-être trop grave, mais qui font du tort. Alors je pourrais dire, oui, mais enfin, c'est mon cousin, c'est mon oncle, c'est tout ce que vous voulez. Oh, je vais. Alors, on va tourner la page, on va laisser. Est-ce qu'on rend service ? Peut-être qu'il faut oser lui dire, mais écoute, tu me fais mal, tu m'atteins dans ma dignité. Je ne parle même pas d'abus sexuel, d'une façon générale, mais en agissant ainsi, tu fais du tort à ta famille, tu fais du tort à tout le monde, à toi-même déjà. Ah non, j'ai trop habitué, tu t'es, c'est leur affaire. C'est une conception individualiste, je vais pas m'interférer là, c'est pas mon affaire. On a vraiment là un changement de mentalité. Et si on est chrétien par le seul marché, où on sait que aimer, ben, c'est exigeant, c'est vrai, mais c'est pour être témoin du royaume, du règne de Dieu. Le chrétien, c'est pas une affaire individuelle, pas que. Bien sûr, c'est mon chemin à moi, mais c'est aussi contribuer à ce que la communauté soit signe de cet amour. Et donc faire semblant ou se taire sous prétexte de charité, c'est pas juste. Charité sans vérité, ça va pas. Je dis pas qu'il faut assommer l'autre pour lui dire des choses, c'est pas ça que j'ai dit. 243. Cela ne peut être réalisé qu'en faisant vaincre le mal par le bien, en cultivant les vertus qui promeuvent la réconciliation. Je reviens, le mot réconciliation, je l'ai souligné, je vais revenir plus loin. Les vertus qui promeuvent la réconciliation, la solidarité et la paix. Jusque dans les offenses subies, la bonté n'est pas faiblesse, mais vraie force capable de renoncer à la vengeance. La bonté, c'est vraiment une façon de regarder l'autre avec un regard vrai et aimant. C'est pas faire semblant que, oh bon, allez, t'es gentil, ça va aller, on tourne la page. Non, non. Si j'ai fait mal à quelqu'un, peut-être que je ne m'en rends pas compte, ou que je minimise le mal. J'ai peut-être besoin que l'autre me fasse comprendre, sans me démolir non plus, mais combien je lui ai fait mal, combien ce que j'ai fait perturbe, paralyse, freine, tout ce que vous voulez. Ça te manque du courage. Si je veux le faire de façon constructive, mais on a notre tempérament, bien sûr, aussi. Je rappelle que les numéros, dans tous les documents romains, ils sont toujours par petits paragraphes. Ça a l'avantage, hein. Ça a l'avantage que si on veut le retrouver, on ne doit pas dire page une telle, parce qu'il peut y avoir plusieurs traductions, mais un numéro, ça reste toujours le même. 244, quand les conflits ne sont pas résolus, mais plutôt dissimulés ou enterrés dans le passé, il y a des silences qui peuvent être synonymes de complicité avec des erreurs et des péchés graves. Face aux abus sexuels, c'est évident, c'est un bel exemple, horrible malheureusement, et il y a des silences qui après peuvent être compris comme complicité. Rien à faire. On tait tel problème. Mais je dirais dans n'importe quel domaine. Je pense dans une société où un comptable, on lui demandait direction, on lui demandait aujourd'hui, on lui faisait comprendre, tu, dans telle colonne, tu mets tel chiffre, enfin voilà, il devait chipoter un chiffre et tu arranges pour que ça tombe bien, ou je ne sais plus comment il avait expliqué. C'était pas pour 4 euros. C'était l'équivalent de centaines de millions d'euros. Il en était malade. Et à un moment donné, il a dit à son patron, non, dans ces conditions-là, je n'accepte pas. On l'a mis ailleurs. Ils avaient la peur, bien sûr, qu'ils dévoilent tout. Mais sous-entendu, on fait semblant, quoi. On cache. Il aurait accepté. Quelque part, il était complice, même s'il n'était pas le patron. C'est redoutable comme responsabilité. Si je vois le mal, l'injustice, je ne dis pas que je dois mettre sur la place publique comme tous les fameux dossiers, ça c'est encore un autre débat. Comment réagir? Oui, d'accord. Mais faire semblant de rien. Ouais, moi j'obéis, hein, c'est le patron, moi j'obéis. Hein. Ah, c'est un peu vite dit. Hein. Si je te dis va tuer un tel, tu vas me dire, ben, j'obéis, on m'a demandé. Ça se passe pour la mafia, d'accord. Mais... Et donc... On est devant des problèmes de conscience, et c'est sûr qu'il y a des moments où on doit oser reconnaître qu'on s'est trompé, on a caché, ou on n'a pas pris au sérieux la gravité. La vraie réconciliation, loin de fuir le conflit, se réalise plutôt dans le conflit, en le dépassant par le dialogue, la négociation transparente, sincère et patiente. Frères et sœurs, le mot réconciliation par rapport au pardon. Père Jean-Marc, le passé a déjà bien souligné cet aspect de pardon. Pardonner, je le redis encore, si je pardonne à mon ennemi ou à quelqu'un qui m'a fait du mal, c'est dire je ne t'enferme pas dans tout le mal que tu as fait. Ça ne veut pas dire que je fais semblant qu'il n'y a rien eu. Ça ne veut pas dire que je vais oublier nécessairement. Je ne cherche pas à entretenir le feu du mal, mais moi je ne sais pas faire delete de ma mémoire comme je fais delete à l'ordinateur. Et le pape dira encore, on y reviendra, mais il n'y a pas nécessairement à oublier. Et alors il y a des choses qu'on ne peut pas oublier, il le dira aussi. La réconciliation s'installe plus loin. Je prends l'exemple, je me suis disputé avec quelqu'un parce qu'il m'a fait mal. Je peux dans mon cœur dire, et a fortiori en tant que chrétien, au nom de Jésus, je pardonne. C'est-à-dire, ça veut dire quoi dans ma tête? Ça veut dire, tu vaux plus que le mal que tu m'as fait. Je ne t'enferme pas dans le mal que tu m'as fait. Mais ça ne veut pas dire que je suis réconcilié. Parce qu'être réconcilié, comme le pape va le rappeler, c'est quelque chose de relationnel. Et par conséquent, si je ne perçois pas que tu as compris que tu m'as fait mal, si je ne parviens pas à percevoir que tu regrettes quelque part le mal que tu m'as fait et que tu as la volonté d'essayer de ne pas recommencer d'un point de vue purement éthique, ici, a fortiori avec le garde de la foi, moi je vais être prudent, je vais dire est-ce que je vais oser renouer activement comme avant? J'ai pas envie de recevoir un deuxième pot de fleurs. Et donc la réconciliation, ça va plus loin que le pardon. Mais il ne suffit pas de dire, mais tu dois te réconcilier, je pardonne, point. Ça c'est clair, on va y revenir. Mais la réconciliation, là ça va supposer que l'autre, si je suis la victime, que l'autre fasse une démarche qui rétablit le chemin, ou en tout cas un certain chemin. Et donc, pas s'étonner qu'il y a des réconciliations qui peuvent demander des décennies. Je vais loin, là, vous allez me dire. Ben oui, mais dans les familles, quand on voit certaines choses qui se passent, on a noyé le poisson, on a foutu toute la poussière sous le tapis. Le jour où on soulève le tapis, on est surpris de voir tout ça. Si on n'a pas géré l'affaire, on a beau avoir pardonné au sens tu vaux plus que tout le mal que tu m'as fait, c'est déjà magnifique de dire ça. Ta dignité est là, tu es enfant de Dieu comme moi, et donc je décide, c'est une décision, je décide de ne pas t'enfermer dans le mal que tu as fait. Tout chrétien peut faire ça, même s'il faut parfois du temps, parce qu'on est tellement blessé. Mais être réconcilié, c'est une autre étape. Je parle de la relation aux humains. Avec Dieu, c'est différent. Avec Dieu, ça va ensemble. Pour les hommes, pas. Parce que si l'autre n'a pas compris, ou minimisé le mal qu'il m'a fait, ou ne veut pas trop le voir, j'ai le devoir d'être prudent. Et surtout si c'est, je ne sais pas, moi je suis père de famille, on a fait du mal à ma famille, oui mais attends, j'ai une mission de paternelle, on va dire, je dois être sûr qu'il n'y a pas autre chose qui va arriver là. Vous comprenez donc? Est-ce que vous voyez cette nuance entre pardon et réconciliation? C'est capital. Et si c'est moi qui suis le bourreau, enfin, pour simplifier, hein, victime et bourreau, si c'est moi l'auteur du mal, même si je reconnais le mal que j'ai fait, première étape, il ne faut pas que je me décourage. Il ne faut pas que je me dise, bah, t'es un salaud, t'es méchant, t'es mauvais, tu vois, tu es... T'as rien de bon, ben non, ça c'est pas juste. Ma dignité, je suis enfant de Dieu. Dieu ne désire pas que je me décourage. Mais il ne veut pas non plus que je fasse semblant. Et donc, reconnaître mon erreur ou le mal que j'ai fait, c'est important. Et en même temps, dire, mais que je vais faire pour faire comprendre à l'autre que j'ai compris, que je regrette, et que je vais essayer. Essayer, c'est parfois difficile, hein, essayer de modifier ou de revoir des choses. Si je peux prendre appui sur l'autre qui ne m'a pas définitivement enfermé dans le mal, quelle chance! Parce que ça veut dire que l'autre continue de croire en moi. Mais dans le meilleur qui est en moi, avec prudence, parce que je suis capable de faire du mal. C'est vrai pour chacun de nous dans tous les sens. On a tous besoin d'être celui qui, à certains moments, pardonne, à d'autres moments, celui qui accepte qu'il a besoin d'être pardonné. La réconciliation, c'est une étape. Et ça, je peux, dans mon cœur, avoir décidé de pardonner à quelqu'un qui m'a fait mal, et je dois accepter qu'il faudra peut-être un temps certain, pour que l'autre comprenne et que quelque chose se reconstruit. Mais j'ajoute tout de suite, peut-être de façon toute belle, avec une étape nouvelle où l'amour est encore plus fort qu'avant, ou peut-être que une étape paisible, mais où ce ne sera pas les réconciliations comme avant. Très concrètement, je prends l'exemple, c'est délicat, mais c'est un exemple très, très concret, quand un couple risque d'éclater parce qu'il y a eu des souffrances, des injustices, ce que vous voulez, le peuple lui-même dira parfois, il faut se séparer parce que ça ne va plus là. On va se démolir complètement. Et un pardon à donner, ça ne veut pas dire que peut-être on va nécessairement pouvoir se reconstruire ensemble. Parfois, les dégâts ont été tels, ou les choses ont enchaîné d'une façon telle que c'est plus possible de revenir ensemble. Une réconciliation, on va dire, complète, comme avant, mais ce ne sera jamais même qu'avant. C'est mieux qu'avant quand on est vraiment réconcilié, parce qu'on est fortifié par le pardon. Mais peut-être que il faudra accepter que ce ne sera pas possible de retrouver ce lien d'avant. Mais il y aurait eu un chemin de vérité, de pardon. Mais reconstruire avec ce qui s'est mis en route, ce sera peut-être plus possible. Vous comprenez l'enjeu. Mais je n'ai pas à me culpabiliser. Quand j'ai pardonné, peut-être que dans mon cœur, je vais avoir des bouffées de violence ou de colère ou de tristesse devant telle chose qui s'est passée. Il ne faudrait pas que je me culpabilise. Non, je n'ai pas pardonné, donc. Mais si, j'ai pardonné, mais mon cœur, ma mémoire, mon être est touché. Et donc, le processus de guérison demande du temps, qui va peut-être conduire à la réconciliation, peut-être, mais peut-être pas, mais au moins un chemin de pacification dans la vérité. Je ne sais pas faire plus, mais je fais ce qui est possible. Et donc, voilà, j'insiste sur cette nuance entre pardon et réconciliation. Parce que ça veut donc dire que dans la réconciliation, il y a deux parties. Il y a moi, il y a l'autre. Je ne peux pas prendre la responsabilité de ce qui se passe dans l'autre. On a déjà assez avec nous-mêmes. Mais donc, c'est important d'intégrer ces deux dimensions. Au 246, on ne doit pas exiger une sorte de pardon social de la part de celui qui a beaucoup souffert injustement et cruellement. La réconciliation est un fait personnel et personne ne peut l'imposer à l'ensemble d'une société. Ça ne parle pas seulement entre États ou entre ethnies ou tout ce qu'on veut. C'est trop facile de dire bah, tu n'as qu'à pardonner, réconcilie-toi. Ah, c'est tout dit ça. C'est tout dit quand on n'est pas la victime. Non. On ne peut pas décréter un pardon social. Dans le domaine strictement personnel, par une décision libre et généreuse, quelqu'un peut renoncer à exiger un châtiment, même si la société le demande. Sous-entendu, c'est bien une démarche personnelle. J'ai le devoir de pouvoir dire, mais la justice doit pouvoir fonctionner. Et il donne des exemples, 248, on ne doit pas oublier les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Je fais mémoire ici de toutes les victimes. Ce n'est pas pour le plaisir de souligner ce qui n'a pas été. Mais il est important que le monde se rappelle ce qui s'est passé en 1945, avec le bombardement. C'est une réalité tellement bouleversante au niveau de l'humanité, pas seulement pour les Japonais, mais pour le monde. En pensant à la dignité des personnes mortes, mais aussi toutes celles qui ont survécu. On ne doit pas non plus oublier les persécutions, le trafic d'esclaves, les massacres ethniques et tous les autres faits historiques qui nous font honte d'être des hommes. Je crois, pour dire ça, il ne faut pas être chrétien. A fortiori, le chrétien doit le dire. Mais tout être humain peut dire, mais de quel droit je joue avec la vie des autres? De quel droit j'accepte qu'il y ait des jeux de puissance qui... Est-ce qu'il y a en moi, d'une façon saine bien sûr, une part de révolte? Non pas pour me décourager, mais pour dire, mais c'est non, je ne peux pas. Je ne peux pas dire, ben oui, mais c'est comme ça, quoi. La vie c'est comme ça. Alors il le redit encore au 250. Le pardon n'implique pas l'oubli. Nous disons plutôt que lorsqu'il y a quelque chose qui ne peut en aucune manière être nié, relativisé, dissimulé, il est cependant possible de pardonner. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne doit jamais être toléré, justifié, excusé, il est cependant possible de pardonner. Quand il y a quelque chose que pour aucune raison nous ne pouvons nous permettre d'oublier, nous pouvons cependant pardonner. Le pardon libre et sincère est une grandeur qui reflète l'immensité du pardon divin. Si le pardon est gratuit, alors on peut pardonner, même à quelqu'un qui résiste au repentir et qui est incapable de demander pardon. Ça, pour moi, on est au cœur du mystère chrétien. C'est pas pour rien que j'ai mis un trait latéral, ce numéro 250. Comprendre à la fois on ne peut pas oublier et à la fois je peux pardonner. Je vais pas servir sur un plateau d'argent. C'est la 10e fois que je te dis ça, arrête. Donc ça, c'est pas pardonné, ça. C'est une sorte de chantage, là. Mais j'ai conscience que j'ai déjà pardonné. Je peux faire comprendre à l'autre, je te pardonne, mais qu'est-ce que tu fais pour te remettre en route d'une meilleure façon, pour que je vois ta décision de changer. Ton regret, c'est pas des mots vieillots. Regretter le mal, c'est pas s'abaisser au sens, c'est pas une dégradation de l'humain. Je regrette le mal que je t'ai fait et j'ai le désir de changer. Je sais, peut-être que j'aurais du mal à changer parce que mon habitude est là et on n'enlève pas une mauvaise herbe comme ça. Mais j'ai le désir d'essayer. Ok, je vais le voir dans le concret. J'ai rigolé. J'écoutais à la radio, là, je ne sais plus quel jour, un matin, on a interviewé les ministres fédéraux pour la question des centrales nucléaires. Et la ministre dit à un moment donné, mais comme ça, brûle pour point devant les conflits entre partis. J'ai rigolé en me disant, mon Dieu, même à la radio, elle dit ça. Et cette femme dit, ah, dans un couple, l'amour et la confiance demandent des preuves. Je dis, ma misère, qu'est-ce qu'elle vient amener là dans un registre sous-entendu entre partis politiques, amour et confiance, bon, demande des preuves. Mais je me dis, c'est évident que ça fait partie, mais, bon, indépendamment du sujet des centrales nucléaires, le pardon, je décide de le donner intérieurement pour ne pas enfermer, mais ma relation à l'autre ne pourra évoluer de façon heureuse et bénéfique que si je vois quelque chose qui change chez l'autre parce qu'il le regrette. Sinon, la réconciliation ne va pas se passer. Et peut-être que l'autre va continuer de plus belle à faire les bêtises qu'il a faites. Donc, à moins d'être sot, je dois être lucide. Mais je peux décider, je ne t'enferme pas une fois pour toutes dans le mal que tu m'as fait. T'es pas tout mauvais, t'es pas tout noir. Tu n'es pas que l'aspect négatif. Mais je ne suis pas naïf, il y a ça en toi. Est-ce que c'est clair là? Oui. Et donc, le pape insiste, hein, c'est refléter l'immensité du pardon divin. Pourquoi pardonner 77 fois cette fois, comme dit Jésus à Pierre? Mais parce que si je m'arrête une fois, ça veut dire que cette fois je suis foutu. Oui. Si je dis, attends, 6 fois je te pardonne, mais pas 7 fois, ça veut dire que si jamais la 7e arrive, c'est ma mort. Ma mort, peut-être pas physique, mais ma mort spirituelle, relationnelle avec toi. Ah non, c'est pas ce que Dieu veut. Pardonner 77 fois, cette fois, ça veut dire que si vraiment je suis fautif et que je le reconnais, Dieu ne veut surtout pas que je me décourage. Il croit en moi, il croit en moi au-delà de ma 77e fois. Et moi, vis-à-vis des autres, je les enfermerai. J'ai dit bien pardon, je n'ai pas parlé de réconciliation. Donc, entrer dans ce chemin, c'est essayer d'aimer à la suite de Jésus. Si ce n'est pas avec lui, c'est évidemment pas possible. Et si j'étais la victime, si c'est moi qui suis blessé, je peux dire, Seigneur, peut-être que je ne serai pas tout de suite capable dans mon cœur de pardonner, dans le sens de ne pas enfermer. Je serai tellement sous le choc de la blessure, j'ai envie que fous-moi la paix, je vais plus te voir en peinture. Dans un premier temps, oui, et peut-être même que dans un premier temps, j'ai besoin de m'écarter pour me protéger, et que je ne suis pas prêt tout de suite à dire, oui, tu vaux plus que le mal que tu m'as fait. Peut-être que j'ai envie de fous-moi la paix, oui. Après, devant le Seigneur, je peux dire, Seigneur, apprends-moi à pardonner. Maintenant, je ne sais pas. Je te demande, aide-moi à pardonner. Et je dis bien, c'est pas pour ça qu'on est réconciliés. Hein. J'espère que vous avez bien compris la nuance, hein, dans ma relation aux autres. Avec Dieu, pas. Dans le sacrement, quand il me pardonne, il me réconcilie avec lui. Parce que je suis sincère et tout ça. Et donc, je crois que cette distinction pour moi est capitale. Et il y a une confusion souvent dans les cœurs, frères et sœurs, Et ça fait mal parce qu'alors on se culpabilise. Mais je croyais que j'avais pardonné. Oui, mais d'abord, même si tu as bien pardonné, et même si l'autre a bien compris, on est des êtres humains, on a une mémoire qui à certains moments, on a des images qui reviennent, des paroles. Je vais me ressaisir, oui. Seigneur, j'ai pardonné. Et l'autre avance. On n'est pas une machine. Hein. Sans compter qu'on a peut-être des cicatrices visibles, si je puis dire. Et donc, j'emploie souvent cette image, vous le savez, si quelqu'un me blesse la main, même involontairement, j'ai une belle cicatrice, ça saigne, mais là, dans la main, vous savez comme moi que ça saigne vite, hein, ça saigne beaucoup. Si gentiment l'autre me dit « Oh, pardonne-moi, il me tend la main », je vais, et non pas lui tendre la main, je vais hurler, ou bien lui dire « Ça va, tu veux vraiment, j'ai besoin de temps pour que ça cicatrise. » Dans l'amour. Au 251, on entame la suite de ce chapitre 7 où on aborde cet autre sujet, la guerre et la peine de mort. Vous allez me dire, c'est des cas extrêmes. Oui, mais pour nous chrétiens, c'est très concret parce que c'est là aussi qu'on va voir le cœur de Dieu. Ceux qui pardonnent, dit-il au 251, ceux qui pardonnent en vérité n'oublient pas, mais renoncent à être possédés par cette même force destructrice dont ils ont été victimes. Vous connaissez comme moi ce témoignage extraordinaire. Ça y est, j'oublie son nom, la sœur au Rwanda, là. Il y a plein d'autres endroits qui ont pardonné à leur bourreau ou qui ont pardonné à ceux qui ont tué leurs parents ou devant eux. C'est fou. Et non seulement ils ont pardonné, mais ils ont fait un chemin de réconciliation. Eux ! Au versant. Donc, ils ont été témoins du massacre de leur famille, de leurs conjoints, de leurs enfants proches devant eux. Ils ont pu fuir eux-mêmes et ne pas être tués, ce qui est déjà aussi un miracle, j'allais dire, enfin en tout cas bon. Et puis, dans leur cœur, ils ont pardonné à leur bourreau. C'est bien le sens de tout ce qu'on a dit avant. En étant extrêmement prudent. Et cette sœur en question a refait un chemin pour elle. Et puis elle a aidé les autres en allant chercher en prison les bourreaux pour faire un chemin de réconciliation avec eux. Vous imaginez ? Vous imaginez ? Donc, ils ont pu dire, mais je vais aller en prison là, je vais retrouver le gars, je vais le voir en face à face, je vais lui exprimer que je lui ai pardonné. Sous-entendu, tu vaux plus que tout le mal que tu as fait, maintenant la balle est dans ton camp. Est-ce que tu veux te réconcilier? Est-ce que tu veux entendre que je te pardonne? Est-ce que tu es prêt à faire plus? Moi je suis prêt à plus. Et certains ont renoué des liens. Donc c'est la réconciliation, non seulement... C'est un chemin de résurrection. C'est un chemin de résurrection pour la victime et pour le bourreau. Pourquoi oser faire ça sinon? À cause de ma dignité d'enfant de Dieu et de sa dignité d'enfant de Dieu. Alors, vous allez me dire, oui, bon, ça va, il y a des exceptions. Oui, ben, on est d'accord. Mais, je dirais, il faut accepter que ce chemin-là change le monde. Hein. Il y avait d'autres exemples, là, comme ça, où d'autres ont été... On l'avait même chez nous, rappelez-vous, quand il y a eu tous les drames, où des parents ont pardonné à leur bourreau d'avoir tué leur fille. ils ne veulent pas des injustices dans les jugements envers eux. Je dirais, ça montre une espérance en l'être humain. Et je dirais, pour nous chrétiens, c'est au nom de Jésus que je peux dire ça. Sinon, est-ce que j'oserais le dire? Est-ce que la croix est pour moi le fondement de cette confiance en l'être humain? Si Jésus, je le redis encore, si Jésus va jusque-là, c'est uniquement pour moi, pour vous, pour nous. Pour que, au pire du mal que l'être humain est capable de faire, torture, mort injuste, jugement, bâclé, tout ce que vous voulez, enfin voilà, toute la querelle des choses, dire, eh bien, même ça, pardon, n'arrête pas l'amour de Dieu pour nous. Il nous aime tellement qu'il va jusque-là, pour que je ne puisse plus douter que l'amour est plus fort que le mal. Et donc, à la croix, par Jésus, c'est le Père qui nous dit « Je t'aime et je t'aime encore. Je t'aime et je t'aime toujours. » Mais, est-ce que tu acceptes mon amour? Est-ce que tu oses croire à mon amour? Est-ce que tu oses te laisser habiter mon amour? C'est un chemin, hein? On est des humains, et donc il y a des choses qui nous demandent du temps. Et on n'a pas, nous, à précipiter les choses, mais on n'a pas non plus à dire, ça viendra quand ça viendra. Oui, non, c'est trop facile. Non, il y a à le désirer. Si on a envie de chocolat, il n'y a pas de problème, on va s'arranger pour en avoir. Hein? Donc pour, oui, c'est sûr, hein. Si on veut voir quelqu'un, on va s'arranger pour le voir. Ah, mais la réconciliation, moi, on s'en viendra, ça doit venir. Il faut d'abord commencer à pardonner dans son cœur. Et il faut oser demander, mais Seigneur, mets dans mon cœur le désir de pardonner. Je ne suis peut-être pas capable aujourd'hui de le dire. Je me rappelle quand j'étais enfant, papa a failli aller en prison à cause d'amis de la famille, enfin amis, faux amis, qui avaient dit des choses absolument horribles et scandaleuses. Mon enfant, si j'avais vu cette personne en peinture, je crois que... Quick, hein, t'aurais tordu le cou, comme on dit. Une violence en moi. J'en avais peur. Puis, j'ai fait un chemin de l'enseigner, bien sûr. Hein. Et je sais qu'un jour... Je m'étais dit, ah, j'aimerais une fois la voir, cette personne, pour lui exprimer ce pardon. Je n'ai pas su le faire parce que je ne connaissais pas son adresse complète. Et bon, j'ai à ce moment-là pas encore compris à quel point c'était important. Même si entre-temps, ben, les procès ont bien montré que papa n'y était pour rien, que ce n'était pas tout ça. Mais en attendant, l'enfant que j'étais... Donc la violence, ce n'est pas la solution, bien sûr. Mais le pardon, oui, parce que ça veut dire que tu vaux plus que ce que tu as fait. On ne parle donc pas d'impunité. Une injustice est une injustice. Et c'est évident que ça pose toute la question de la société, mais hein, qu'est-ce qu'on fait de, comment ça se fait que certains, on ne peut pas... les condamner. Ils ont fait des choses horribles et ils ont un espèce de jugement à la va-vite où la sanction c'est une queue de cerise. C'est pas juste, hein. C'est pas proportionné. L'amour, c'est pas accepter n'importe quoi. On va le revoir. 253, quand des injustices sont commises de part et d'autre, c'est vrai entre États, mais c'est vrai aussi parfois dans des associations, c'est vrai dans une famille, il faut clairement reconnaître qu'elles peuvent ne pas avoir la même gravité ou n'être pas comparables, c'est évident. Il y en a peut-être qui ont 10% de responsabilité, mais l'autre en a peut-être 90%. Par conséquent, la violence exercée par les structures et le pouvoir de l'État n'est pas au même niveau que la violence perpétrée par des groupes particuliers. Quand un pays se permet d'écraser, de voler, de spolier les choses, c'est évident que l'injustice est d'un autre ordre que mon voisin qui essaye peut-être de me voler quelques mètres carrés ou qui vole les fruits sous les arbres. Enfin, vous comprenez bien. Il y a différents niveaux. Le pape, au numéro 254, et je m'arrêterai là, dit: je demande à Dieu, vous pouvez le prendre ensemble si vous voulez bien, on va le dire peut-être à notre aise, paisiblement. Je demande à Dieu de préparer nos cœurs à la rencontre avec nos frères au-delà des différences d'idées, de langue, de culture, de religion. Demandons-lui d'oindre tout notre être de l'huile de sa miséricorde qui guérit les blessures des erreurs, des incompréhensions, des controverses. Demandons-lui la grâce de nous envoyer avec humilité et douceur sur les sentiers exigeants mais féconds de la recherche de la paix. On voit tout de suite, frères et sœurs, la recherche de la paix, c'est pas faire semblant. C'est très facile, si je suis le puissant qui ai le pouvoir, de dire: allez, paix mon frère. Attends, oui, mais si je suis la cause de différentes injustices, je suis le fort et je dis la paix, c'est une gifle supplémentaire. C'est comme si je disais à l'autre: oublie le mal que je t'ai fait, soyons dans la paix. C'est horrible ça, c'est scandaleux. Souvent, ceux qui prônent la paix, c'est peut-être ceux qui ont tout le pouvoir. Hein. C'est facile. Mais je peux peut-être pas, si je suis la victime, dire: ben, essayons d'imaginer un chemin de paix. Mais celui qui demande, s'il est celui qui a le pouvoir, la puissance, qui a blessé peut-être, qui demande: faisons la paix, il doit peut-être se dire: mais qu'est-ce que moi je mets en avant pour montrer que je suis désireux de cette paix. Cet après-midi, nous prendrons la suite. Mais, vous voyez que c'est vraiment très riche. Hein. Ce chapitre 7, pour moi, il est dans le chapitre majeur de l'encyclique, à bien comprendre dans toutes ces dynamiques, pour être frères, tous frères, dans la joie même d'être frères, parce que nous on sait qu'en Jésus c'est possible, ça demande un chemin de vérité, de parole, sans tout mélanger. Il ne s'agit pas d'être poivre, mais on doit être prophétique. Peut-être pouvons-nous chacun, chacune, reprendre sur le feuillet ce qui nous semble là où on s'est senti touché. Dans mon chemin à moi, Seigneur, qu'est-ce que tu me donnes de mieux comprendre? Ou est-ce que tu me demandes aussi, peut-être, de faire un pas pour, oui, qui exprime un pardon, parce que je peux le mettre dans mon cœur, ce pardon. Et à un moment donné, je peux le dire à l'autre. Pas tout de suite. Il faut peut-être parfois attendre. Mais la réconciliation, c'est encore autre chose. Dans mon cœur, je pardonne. À un moment donné, peut-être je peux le lui dire. Mais en tout cas, c'est un chemin de vérité. Demandons au Seigneur sa lumière pour ne pas se laisser enfermer dans la douleur de l'injustice. Il ne s'agit pas de la nier. Dans la douleur de la blessure, si nous sommes la victime, ou dans le remords qui détruit. Le remords est nécessaire, mais il ne peut pas durer indéfiniment. À un moment donné, il doit stopper, sinon c'est mortifère. Si je suis bourreau, ben, Seigneur, aide-moi. On a tous, qu'on soit la victime ou bourreau, on a tous besoin de la lumière, de l'Esprit Saint. Demandons, viens, Esprit Saint, m'aider à assumer ce qui s'est passé là d'une façon vraie, mais dans l'amour. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le Comme chaque journée pour Dieu, nous poursuivons dans le silence, bien entendu, sauf qu'on ne m'endure pas. Nous aurons l'Eucharistie à 11h30, dans 1h10. Entre-temps, à la chapelle, le Saint-Sacrement est exposé, vous pouvez vraiment confier au Seigneur tout cela, ce vécu en quoi vous êtes rejoint. Vous pouvez aussi aller marcher, il faut en profiter peut-être. Et alors, le Père Jean-Marc et moi-même, on reste disponibles pour des échanges ou le sacrement de réconciliation. Le Père Jean-Marc sera à la mezzanine en haut, là, au plus 2. Et moi, ce sera juste là, avant, quand on sort à l'arrière, la porte qui est là dans le fond. Dès que c'est libre, j'ouvre la porte, voilà. Mais que ce soit un chemin, frères et sœurs, de grande paix, de grande joie, pour chacune et chacun. Voilà, et nous offrons ce silence. Amen.